Salut à toutes et à tous, il est midi 15 sur le 94 FM, vous écoutez 3 en 1.
À l'instant, un message de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Je vous le lis tel quel. Les États-Unis ont mené une large opération militaire contre le Venezuela et son président Nicolas Maduro, qui a été, avec son épouse, capturé et emmené hors du pays.
Ça se fait bien sûr pour moi, pour tous mes potes vénézuéliens, toute ma famille vénézuélienne, genre vraiment toutes les personnes vénézuéliennes que je connais sont soulagées pour ouf, sont contents.
C'est aux Vénézuéliens de décider leur propre destinée. Le droit international est mort.
Hello à vous, c'est Nina sur Canal B, bienvenue dans 3 en 1. Depuis deux jours, tout tourne maintenant autour du Groenland et du forum de Davos, mais juste avant, il y a à peine quelques jours, souvenez-vous, on parlait du Venezuela. Alors même si l'actualité est déjà apparemment passée à autre chose, l'équipe de 3 en 1 vous a préparé une émission spéciale à ce sujet. Comme vous le savez, Nicolas Maduro, président du Venezuela depuis 2013, a été capturé dans la nuit du 3 janvier par des forces armées états-uniennes. Avant cela, l'escalade entre les deux pays est montée graduellement, notamment depuis septembre, moment auquel l'armée américaine a commencé à lancer des frappes mortelles sur des bateaux de présumés trafiquants de drogue au large du Venezuela. Alors, ce midi sur Canal B, on vous propose un petit éclairage vu de Rennes sur ces événements. Et alors, au sommaire, Lola, tu as assisté à la manif du 7 janvier.
Et oui, une cinquantaine de personnes étaient réunies place République pour dénoncer l'impérialisme états-unien et à travers la foule, j'ai eu la chance de recueillir le témoignage de Carlos, un jeune Vénézuélien réfugié à Rennes depuis 10 ans.
On va donc entendre un témoignage personnel pour commencer et ensuite, tu t'es tournée du côté des spécialistes de ce sujet, plutôt côté recherche.
Je me suis entretenue avec Tamara Espinera Guirao, elle est enseignante chercheuse et spécialiste de l'Amérique latine et des relations internationales à Sciences Po Rennes. Ses réponses sont permises de prendre du recul par rapport aux faits et par rapport à notre vision franco-française de l'événement.
On a hâte d'entendre ça. C'est parti donc pour cette émission spéciale Venezuela dans 3 en 1 sur Canal B. Et pour commencer, je vous propose de revenir sur un terme qu'on a beaucoup entendu depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro. C'est le terme « Donro ». Alors Manon, là, je te sens partante pour nous donner un petit cours d'histoire états-unienne. Ça veut dire quoi « Donro » C'est un nouveau délire à la Trump ?
Donro provient de la doctrine Monroe, du même nom que James Monroe, le cinquième président des États-Unis. Rendez-vous compte, il a connu la conquête de l'Ouest. À ce stade, on peut lui donner la médaille du colon suprême. La doctrine Monroe fait référence à l'idéologie de celui donc qui a été président du pays de 1817 à 1825, soit pendant la période du grand déplacement forcé des Amérindiens vers l'Amérique du Sud.
C'est sympa, je pense qu'on peut surtout dire qu'il en est responsable, Monroe, s'il était président à ce moment-là, et puis on peut peut-être aussi parler de déportation. Et est-ce que c'est pas lui aussi qui disait en gros que l'Amérique du Sud appartient aux États-Unis ?
Pas tout à fait, mais c'est un peu ça quand même. En gros, pour notre cher James, les Européens n'ont pas le droit de toucher à l'Amérique du Sud, et en contrepartie, les États-Unis n'interviennent plus dans l'Ancien Monde, l'Asie et l'Afrique. En bref, chacun son terrain de jeu.
Mais l'idéologie Monroe, est-ce que c'est pas aussi une doctrine sur l'esclavagisme de masse des Amérindiens ?
Si, si, clairement, Monroe, c'est même l'un des plus grands propriétaires de plantations aux États-Unis. Il possédait à l'époque une centaine d'esclaves. Mais tout ça, ça n'a pas l'air de poser problème à Donald Trump, qui a repris le terme de la doctrine Monroe en remplaçant le M du nom de l'ancien président par le D de Donald, le melon du mec, quand même.
Et bah, ça n'augure rien de bon sur ce qu'il compte faire au Venezuela, ça non ?
Justement, on y vient, il n'a bien sûr pas choisi ce pays au hasard. Depuis le début du régime d'Hugo Chavez, dictateur vénézuélien, les relations entre le Venezuela et les États-Unis sont plus que tendues. Avant Chavez, le Venezuela était le premier pays fournisseur de pétrole des États-Unis, mais en arrivant au pouvoir en 1998, Chavez a tout changé. Il avait promis à ses concitoyens de, je cite, « rendre le pétrole au peuple ». Et après la mort de Chavez, c'est Maduro qui prend le relais en 1997 et lui non plus ne porte pas Trump dans son cœur.
Mais donc c'est le pétrole qui est à l'origine de la capture de Nicolas Maduro ?
Eh bien, c'est pas ce que disait Donald Trump lui-même au moment de la capture du président vénézuélien. Il disait vouloir lutter contre le narcotrafic pour protéger ses concitoyens états-uniens. L'exportation de fentanyl et de cocaïne n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui aux États-Unis. Et selon Trump, le Venezuela serait le principal coupable.
Mais attends, la première plaque tournante de cocaïne en Amérique latine, c'est pas la Colombie ?
Bah si, la Colombie produit environ 68% de la cocaïne mondiale selon le Bureau des Nations Unies contre le crime et la drogue. Et concernant le fentanyl, eh bien le Venezuela n'a tout simplement rien à voir avec. Cette drogue, qui est de loin la plus meurtrière aux États-Unis, est principalement fabriquée en Chine avant d'être exportée vers le Mexique, puis transportée aux États-Unis. Donc quand Trump dit vouloir sauver des vies américaines, on espère presque qu'il était lui-même sous fentanyl au moment d'élaborer sa stratégie de com.
Mais pourquoi avoir fait tomber Maduro alors ?
Bah il le dit clairement aujourd'hui, pour protéger son pétrole. Alors pour ça, rien de mieux que de coloniser un pays. Parce que oui, tout appartient à Donald, même la dignité et la souveraineté d'un État. Parce qu'après tout, comme il le dit si bien, « Make America Great Again », et comme nous on aime le traduire, « Make Colonialism Great Again ».
Avec lui, le colonialisme est de nouveau à la mode.
Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo mi negrita con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender. Y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije, Maduro, coño es tu madre. Y me fui, me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Y aquí estoy.
Vous venez d'écouter Me fui de Raymar Perdomo sur Canal B. Mercredi 7 janvier, une manifestation à Rennes s'est déroulée en soutien aux Vénézuéliens et Vénézuéliennes pour dénoncer l'impérialisme états-unien. Lola, de la rédaction de Canal B, s'y est rendue et Carlos, un jeune Vénézuélien réfugié en Europe, a accepté de témoigner à son micro. On l'écoute tout de suite.
Donc l'information de ces dernières minutes, c'est Donald Trump qui non seulement confirme ses frappes américaines sur Caracas, donc sur la capitale vénézuélienne, mais aussi sur d'autres régions du Venezuela, et qui surtout confirme que Nicolas Maduro a été capturé.
La France apprenait le 3 janvier dernier la capture de Nicolas Maduro, le président désormais déchu du Venezuela. À Rennes, comme partout en France, dans les rues, les manifestations grouillent pour dénoncer la capture de l'homme par des forces armées américaines. Mercredi 8 janvier, c'est place de République à Rennes que les drapeaux et bannières se sont installés, dénonçant l'impérialisme états-unien. Parmi la cinquantaine de manifestants, deux jeunes hommes se tiennent à l'écart de la foule. Tous deux sont originaires d'Amérique latine. L'un d'entre eux, Carlos Diego Arguinemo Escobar, est vénézuélien. Le jeune homme de 23 ans a quitté son pays à 13 ans, fuyant la dictature de Maduro. Il a accepté de me partager un bout de son histoire.
La situation spécifique pourquoi on a immigré au Colombie, c'est parce qu'un mon petit cousin, il a eu cancer. Par rapport à toute la situation qu'il y avait dans mon pays, c'était littéralement impossible payer les médicaments pour mon petit cousin, tu vois. Ma mère, elle est partie en première toute seule. Et moi, j'étais censé à rester jusqu'à finaliser mon bac. C'était pas possible. J'étais forcé aussi de partir aussi de mon pays. Et je suis migré au Colombie avec mon petit cousin, ma mère, le copain, ma mère aussi. Et on a vécu là-bas sans travail, sans absolument rien. Littéralement, ma mère, elle a finalisé de vendre tout ce qu'elle avait ou qu'on avait au Venezuela pour pouvoir survivre au Colombie en supportant de la xénophobie. Et moi, j'ai vécu ça quand je faisais mes cours. Après, ce n'est pas contre le Colombie, enfin, c'est tout qui passe, tu vois, quand tu es immigrant. Désolé, hein. raconter ça, c'est un peu genre, quand même dense pour moi, tu vois. Comme je t'ai dit, on a tout vendu au Venezuela, donc ça veut dire qu'on est, enfin, au Venezuela, aujourd'hui, on n'a absolument rien. Juste ma grand-mère. Enfin, dis-toi qu'on pouvait pas même, on pouvait même pas revenir dans notre pays. On pouvait pas revenir, pas parce qu'on était poursuivis politiques, non, pas du tout. Mais la situation, elle était si horrible, horrible, que c'était impossible de rentrer là-bas. Enfin, genre, c'était insécure. Ça situation, bien sûr, pour moi, pour tous mes potes vénézuéliens, toute ma famille vénézuélienne, genre vraiment toutes les personnes vénézuéliennes que je connais sont soulagées tout ouf, sont contents. Sur des toits que le mec qui a littéralement volé ma vie et la vie de ma mère et de ma famille, en fait, il est en prison maintenant, tu vois. Alors moi, je suis parti en boîte avec des potes dominicains et voilà, ma mère pareil, toute ma famille pareil, au Venezuela, même au Venezuela, et tous mes potes qui sont dans le monde, en fait. Imagine, tous mes potes, ils sont partis dans le monde et je sais même pas si je les veux revoir dans ma vie, tu vois. Je suis pas fan non plus de Donald Trump, tu vois, c'est ouf le fait que moi, en vivant cette réalité, je vois en réalité vraiment comment un autre président prend un autre président comme ça, tu vois. Mais bon, tout le monde parle que c'est à cause des intérêts, du pétrole, c'est évidemment. Mais plus peur, non, bien sûr, c'est plus du tout. Enfin, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Personne ne le sait. Absolument personne ne le sait. Ça ne pourrait pas devenir pire. Genre là, tout le monde me parle des génocides, des trucs horribles, tu vois. Mais tous les trucs horribles que tu peux t'imaginer, ça se passe au Venezuela depuis plus de 20 ans. Et moi, je l'ai vécu en réalité. Sorti protester avec mes potes. J'ai des potes qui sont maintenant kidnappés par le régime de Maduro, en fait, tu vois. J'ai des potes qui sont morts, mais ça, la situation au Venezuela, ça pourrait être pas pire maintenant qu'avant, tu vois, qu'est-ce que je veux dire. Indépendamment de qu'est-ce qu'il Trump va faire réellement là-bas, tu vois.
Une semaine après avoir rencontré Carlos à Rennes, 3 en 1 a reçu Tamara Espinera Guirao, chercheuse en relations internationales et spécialiste de l'Amérique latine, au micro de Lola.
Tamara Espinera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante chercheuse et conférencière à l'université Sciences Po Rennes, où vous enseignez la géopolitique de l'Amérique latine et les relations internationales. Vous avez aussi notamment travaillé sur l'autonomie stratégique des territoires sur la scène internationale. Et aujourd'hui, nous vous invitons pour éclairer nos auditeurices sur ce qu'il se passe actuellement au Venezuela. Alors, vous venez d'entendre le témoignage de ce jeune Vénézuélien Carlos, et j'aimerais vous faire réagir sur ces mots. Il dit que c'est un soulagement, tant pour sa famille, ses amis, que Nicolas Maduro soit tombé. Comment vous comprenez ce soulagement ?
Je comprends le soulagement de façon à que la crise vénézuélienne, il a une tête visible. Après, on ira plus sur les causes, que c'était Nicolas Maduro. Mais en fait, c'est un soulagement qui ne va pas durer longtemps. Comme on a vu, la vice-présidente Delcy Rodríguez et d'autres personnages importants du régime vénézuélien comme Diosdado Cabello sont toujours aux cordes du pouvoir, donc c'est un soulagement très 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 relatif. Après, il y en a la question de pourquoi on est arrivé là, et il y a un moment donné, Carlos dit le type responsable de la crise au Venezuela est en prison. Bah non, au moins pas tout à fait complètement, parce que il y a une grande responsabilité des États-Unis dans la crise au Venezuela à cause des sanctions économiques. Et pour vous expliquer les sanctions économiques, pour n'importe quel citoyen français, c'est facile. Pensez à la Covid, quand on ne retrouvait pas des farines dans les supermarchés, imaginez ça, multiplié par la puissance commerciale des États-Unis. Et vous savez la situation au Venezuela. Donc oui, il y en a peut-être un des coupables de la crise vénézuélienne, mais le principal coupable, il est toujours président des États-Unis.
Alors, on a vu en direct à Caracas la réaction des Vénézuéliens qui se sont regroupés dans la rue de la capitale. Certains se réjouissent de la chute de Maduro, pendant que d'autres manifestent pour demander la libération de leur président. Comment vous expliquez, de votre œil de chercheuse, cette division de la population vénézuélienne ?
Mais cette diversion, elle a toujours existé, hein. C'est-à-dire que ni Maduro fait l'unanimité, ni l'opposition fait l'unanimité. Ça s'appelle une démocratie. Comment elle est gérée, c'est une autre question. Mais il faut vraiment enlever les lunettes, on va dire, occidentales, pour lesquelles on a un espèce de cliché de Nicolas Maduro, le dictateur parfait, ou une opposition qui est toute blanche. Non, il n'y en a vraiment pas des gentils et des méchants dans cette histoire. Tout le monde a des comptes à rendre. Et donc, dans ces comptes à rendre, il y a aussi la suite Donc, peut-être pour la suite, on a besoin de que Maduro soit de retour pour pouvoir fermer un chapitre et commencer un autre. Et que ce ne soit pas les États-Unis qui décident à la place des Vénézuéliens.
Et est-ce que, selon vous, la diaspora vénézuélienne, elle joue un rôle dans la formation d'une opinion sur la capture de Maduro?
Tout d'abord, l'œil occidental, il est limité. Les Vénézuéliens sont en train d'enterrer leur mort, là. Il y a plus de 100 personnes mortes à cause des attaques des États-Unis. Il y a des infrastructures vitales électriques qui ont été mises à l'arrêt. Donc, tout d'abord, faut penser à ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une armée qui est rentrée à Caracas au milieu de la nuit. Il a détruit une partie de la ville. Ils ont tué des gens et ils n'avaient aucun droit de le faire. Maduro ou pas? C'est Maduro ou pas, enlève aux citoyens vénézuéliens le droit de décider pour eux-mêmes. C'est quelqu'un d'autre qui décide à leur place. Et trois, pour revenir à cette question de la diaspora légitime ou pas, elle est toujours légitime, c'est toujours des Vénézuéliens. Et en plus, ils ont été obligés de partir, que c'est presque une des décisions les plus dures que n'importe qui devra prendre une fois dans sa vie, c'est terrible. Mais en fait, la situation au Venezuela, elle est plus ou moins tenable selon le degré de sanctions des États-Unis. Elles peuvent être plus dures ou elles peuvent être moins dures. C'est une espèce de robinet qui s'ouvre ou se ferme au gré de besoin en pétrole des États-Unis et pas que. Hein, parce que Emmanuel Macron avait dit à Nicolas Maduro en 2023, bonjour monsieur le président. Donc, faut pas oublier qu'il y a une certaine hypocrisie en disant, bon, Maduro, il est moins bon ou moins méchant selon le pétrole et son cours. Donc, voilà, toujours relativiser. Je ne dis pas pour autant que le régime de Maduro n'était autoritaire. Il est autoritaire. C'est pas des bons gestionnaires économiques, ça c'est sûr.
Alors, les États-Unis, justement, ils ont l'intention de conserver plusieurs années le contrôle du Venezuela et donc de son pétrole, vous l'avez dit. Donald Trump et toute son administration répètent qu'il est, de leur point de vue, prématuré donc d'évoquer la tenue d'élections dans le pays. Alors aujourd'hui, comment et par qui est gouverné le pays?
Ben, le pays, il est gouverné par la vice-présidente Delcy Rodríguez et par son Assemblée nationale. Et il y en a un point qui démontre cela, c'est que si Trump avait vraiment les boutons sur le pétrole ou pas, la loi d'exploitation des hydrocarbures, elle aurait été annulée avec le départ de Maduro. Or, elle n'a pas été annulée et ce n'est pas question. Après, il faut savoir deux choses. Il y en a une pétrolière des États-Unis qui est toujours là et qui a été toujours là avec une espèce de licence spéciale des États-Unis, que c'est Chevron, et ils sont toujours là. Et j'étais en train hier d'écouter Donald Trump discuter avec Exxon et avec Chevron, et oui, il parle comme si c'était si simple de rentrer au Venezuela, et en plus d'une façon très paternaliste, j'ai entendu Exxon et j'avais l'impression d'entendre Scarlett O'Hara en entendant au porte-le-vent parler de ses esclaves. C'est la façon de faire, c'est une espèce de propagande qui s'installe, on a le contrôle du Venezuela. Non, vous l'avez pas, vous l'avez absolument pas, sinon vos soldats seraient dans les rues, et c'est pas le cas. Troisièmement, il y en a quand même un pont et, entre les deux, et c'est que pour pouvoir travailler en dollars et pour pouvoir opérer au niveau mondial, déjà au début du XXe, l'État vénézuélien avait créé une espèce de joint venture entre la pétrolière vénézuélienne et les États-Unis qui s'appelle CITGO. Et CITGO, elle est toujours basée aux États-Unis et aujourd'hui, il y a une discussion aux tribunaux sur qui a vraiment le droit de propriété sur CITGO, si le gouvernement vénézuélien ou si l'opposition vénézuélienne, parce que le résultat des élections, il est quand même incertain. Et c'est à partir de CITGO qu'ils peuvent avoir certains droits sur le pétrole vénézuélien, mais ils sont pas vraiment la gestion ni du gouvernement ni du terrain, au moins pour le moment. D'ailleurs, ils sont en train de retirer des bateaux de la côte.
Thank you.
C'était Orea de Speranza Gales sur Canal B 94 FM. On retourne tout de suite en plateau avec Lola et son invitée Tamara Espinera Guirao.
Lundi 5 janvier, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron il a indiqué que la France n'approuvait pas la méthode utilisée par Washington pour renverser donc, le président vénézuélien. Mais pour autant, il ne condamne pas la chute de Nicolas Maduro. Il appelle même à une transition pacifique, je cite, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Et c'est le même constat à l'échelle nationale et internationale. Personne ne bouge. Pourquoi, selon vous, les instances de régulation internationale, donc l'ONU, l'Union européenne, laissent ce genre d'action sans aucune conséquence vis-à-vis du droit international?
Est-ce que l'ONU est une armée? Non. Donc bon, la question est vite finie. Pourquoi personne n'a arrêté la Russie en Ukraine? Parce que physiquement, on ne peut pas. Tout simplement, deux, les Nations Unies elles sont paralysées depuis longtemps, et ça c'est moi qui l'ai dit, qui voulais travailler pour les Nations Unies, et c'est pour ça que je fais sciences politiques à l'époque, et donc imaginez la déception. Et deux, pour activer la charte des Nations Unies et l'article concernant la défense collective, il faut passer au Conseil de sécurité. Or, les États-Unis ont droit de veto au Conseil de sécurité, donc tout le monde sait que ça va bloquer. Ça a bloqué déjà en 1989 avec l'invasion du Panama, et ça a bloqué après avec l'Ukraine, ça a bloqué après avec l'Israël et la Palestine, et donc les Nations Unies n'ont aucun pouvoir et restent une espèce de forum de dialogue tout à fait symbolique.
Mais est-ce qu'il y aurait justement d'autres instances qui pourraient intervenir?
Oui, les organisations régionales américaines, mais on a les mêmes problèmes. Pour l'organisation des États américains, il y a les États-Unis qui font partie. Et deux, si ça a été il y a 2 ans, il y aurait quand même un front plus ou moins unifié à gauche ou vers la gauche. Mais aujourd'hui, il commence à avoir un clivage politique assez marqué entre le champ, disons à droite, mais c'est plutôt pro-occidental, et les champs plus favorables aux pays du Sud. Et donc, on n'aura pas une réponse unifiée. Pour les cas de Panama, ça avait été unifié. C'était même la première fois que les États-Unis recevaient une négative de l'Organisation des États américains. Mais aujourd'hui, pour les Venezuela, on n'a pas la même configuration. Et donc, la réponse sera pas militaire, elle pourrait être économique, mais l'acteur qui pourrait le faire, pour l'instant, n'a pas bougé et c'est la Chine.
Alors, vous en avez un petit peu parlé avant, mais en tant que chercheuse spécialiste donc sur la souveraineté stratégique des États, avec les informations que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est stratégique d'obtenir lorsque l'on veut prendre le contrôle d'un pays? En tout cas, quels outils du pays vénézuélien Trump a-t-il en main et qu'est-ce que cela lui permet de faire aujourd'hui?
Bah, il a les sanctions économiques, en fait. Les Vénézuéliens, ils ont réussi à peu près à les contourner, et c'est pour ça que c'est si intéressant de rattraper les bateaux au milieu de l'Atlantique. Mais pour l'instant, il a la menace de la force, sachant qu'un blocage maritime est tout à fait illégal et peut être considéré comme un acte de guerre. Mais surtout, et c'est ce qu'il a fait depuis son premier mandat, ce sont les sanctions économiques. Puis retenir dans le vide juridique la filiale des États-Unis au Venezuela.
Et donc, au final, son arme principale aujourd'hui, c'est le pétrole.
Oui, c'est le pétrole, mais en Venezuela, il y en a plus que du pétrole, en fait. Il y a de l'or, il y a des terres rares, il y a du lithium, il y a de la forêt, il y a toutes les ressources qu'on voudrait avoir. C'est pour ça que j'ai dit que les États-Unis ne sont pas les seuls responsables dans la crise économique vénézuélienne aujourd'hui. Parce qu'une partie des bénéfices du pétrole du chavisme aurait dû être réinvestie dans une diversification de l'économie qui ne s'est jamais produite. Et voilà, cela n'a pas contribué à aider les peuples vénézuéliens.
Alors on va revenir un petit peu sur la population. Alors qu'il y a Trump d'un côté et il y a les partisans de Maduro aussi de l'autre.
Il y en a certaines voix. Même des voix des opposants vénézuéliens qui sont contre le fait de la vue de pouvoir des États-Unis.
De l'impérialisme américain.
Oui, comme je disais tout à l'heure, Nicolas Maduro n'est pas parfait.
loin de là, mais c'est aux Vénézuéliens de décider leur propre destinée. Et on peut pas changer de maître. C'est pas ça que les Vénézuéliens veulent et c'est pas ça que les Vénézuéliens méritent. Et donc ils ont le droit de choisir leur propre régime politique. Et ils ont le droit de choisir comment gérer leurs ressources naturelles. C'est impensable de accepter un discours d'un dirigeant de notre pays en disant c'est notre pétrole, ce sont nos bénéfices, on va les récupérer. Mais ça s'appelle colonialisme, ça. Et donc, même les gens les plus à droite, la Libertad Avanza en Argentine, même si lui, il est d'accord avec l'intervention, il accepterait jamais que les États-Unis leur disent le lithium, c'est à nous. Donc, les ressources au Venezuela appartiennent au Venezuela, point barre.
Vous disiez justement que maintenant, donc, les Vénézuéliens sont en droit de choisir leur régime, ce qui va de soi. Et justement, est-ce que depuis la chute de Maduro, vous avez observé une libération de la parole? Est-ce que justement, on a de plus en plus de mouvements pour décider de l'avenir du Venezuela de la part des Vénézuéliens eux-mêmes?
Non, il y a le même. Il y a juste un geste très symbolique et pour moi, ça implique une ouverture des négociations, que c'est la libération des prisonniers politiques. Et donc, c'est toujours un premier geste dans les processus de transition. On l'a vu même en Espagne. Donc, il y en a une première ouverture. Mais en fait, les risques, c'est de présenter un État trop faible. Parce que au Venezuela, il y en a des acteurs non formels, il y en a des mafias, il y en a des guérillas, il y en a des mouvements paramilitaires. S'il n'y a pas une tête ou un semblant de tête, ça pourrait voler en éclat. Et donc là où il a raison, Marco Rubio, c'est que la transition doit se faire pas à pas.
Cette transition qui doit se faire pas à pas, qui pourrait les orchestrer? Est-ce que il y aurait peut-être des sociétés civiles pour jouer un rôle dans cette phase de transition?
Oui, mais la société civile au Venezuela, elle a plusieurs couches. Hein. Il y en a toute une série d'élites qui a été avant aux manettes du pouvoir, qui s'appelle société civile et qui reçoit des prix internationaux, quand en fait, sont financées par George Soros et d'autres gens sympas du monde. Et qui sont pas vraiment des ONG, hein. Ils sont des intérêts très 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 économiques très 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 clairs. Donc qui est la société vénézuélienne aujourd'hui? Il faut bien séparer les discours de la vérité. Sinon, oui, le Venezuela, il est une société participative qui est organisée en commune. Même la constitution vénézuélienne actuelle propose et exige qu'il y ait un pouvoir participatif et qu'il y ait un pouvoir des communes. Donc, à partir de ces pouvoirs-là qui existent déjà, qui sont reconnus par la constitution et qui sont reconnus par les régimes, ça serait possible d'établir une transition avec une petite sauvegarde, que ça serait que faudrait qu'il y en ait un peu plus de pluralité dans ces communes et dans ces pouvoirs participatifs. Mais les structures existent déjà.
Donc je le rappelle, vous êtes spécialisée dans la diplomatie et les relations internationales. Et à ce titre-là, qu'est-ce que l'invasion du Venezuela par les États-Unis dit de l'avenir de la diplomatie et du respect de la souveraineté des États actuellement?
Le droit international est mort. C'est tout simple, le droit international est mort, mais ça fait un moment qu'il est mort, hein. Il est mort depuis l'invasion de la Crimée en 2014, hein. C'est juste qu'on l'a maintenu au coma et aujourd'hui le diagnostic final est tombé.
Voilà. Merci d'avoir été avec nous sur Canal B, Tamara Espinira. Je le rappelle, vous êtes enseignante, chercheuse et conférencière à l'Université Sciences Po Rennes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Lola pour la réalisation de cette interview. Depuis cette interview, la présidente du Venezuela par intérim, Delcy Rodriguez, a proposé au Parlement vénézuélien une réforme partielle de la loi sur le pétrole qui devrait faciliter les investissements internationaux vers l'industrie pétrolière vénézuélienne. Mais à ce jour, nous n'avons pas beaucoup plus d'informations à ce sujet. Merci à toute l'équipe de 3 en 1 pour la préparation de cette émission spéciale Venezuela et à nos invités. On se retrouve lundi prochain à 12h15 sur le 94 FM.